Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Cédric Fuentes et Julien Rosa. À la réalisation, Marie Placé, prise de son, Pierrick Monsigny.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besserie.
Troisième jour de notre série Sexus Economicus. Hier, nous avons évoqué les spécificités des industries de l'érotisme et de la pornographie. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les enquêtes et les réflexions des sciences sociales sur les pratiques sexuelles. À la différence des études biologiques et médicales, l'analyse sociologique établit des liens entre les pratiques sexuelles et les mécanismes qui caractérisent les rapports sociaux. Une approche qui permet donc l'élaboration d'un discours tant sur la sexualité elle-même que sur la société qui produit ces pratiques. Sans oublier la construction et l'influence de leur représentation qui reformule sans cesse la question des rapports de genre et de domination. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de sociologie des pratiques sexuelles en compagnie de Nathalie Bajos, sociologue, démographe, directrice de recherche à l'INSERM et co-auteur avec Michel Bozon de Enquête sur la sexualité en France aux éditions La Découverte. Également avec nous, en duplex de La Rochelle, Marie Jaspard, sociodémographe. Vous travaillez sur la sexualité et les violences faites aux femmes et vous êtes auteur notamment de Sociologie de la sexualité aux éditions La Découverte également. À 14h50, vous retrouverez comme tous les jours les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
Au nombre de ces emblèmes, notre société porte celui du sexe qui parle, du sexe qu'on surprend, qu'on interroge, et qui, contraint et volubile à la fois, répond intarissablement. Un certain mécanisme, assez féerique pour se rendre lui-même invisible, l'a un jour capturé. Il lui fait dire dans un jeu où le plaisir se mêle à l'involontaire et le consentement à l'inquisition, la vérité de soi et des autres. En proie à une immense curiosité pour le sexe, nous sommes obstinés à le questionner, insatiable à l'entendre et à en entendre parler, prompt à inventer tous les anneaux magiques qui pourraient forcer sa discrétion. Comme s'il était essentiel que nous puissions tirer de ce petit fragment de nous-mêmes, non seulement du plaisir, mais du savoir, et tout un jeu subtil qui passe de l'un à l'autre. Savoir du plaisir, plaisir à savoir le plaisir, plaisir savoir. Et comme si ce fantasque animal que nous logeons avait de son côté une oreille assez curieuse, des yeux assez attentifs, une langue et un esprit assez bien faits pour en savoir fort long et être tout à fait capable de le dire dès qu'on le sollicite avec un peu d'adresse. La question de ce que nous sommes, une certaine pente nous a conduit en quelques siècles à la poser au sexe, et non pas tellement au sexe nature, élément du système du vivant, objet pour une biologie, mais au sexe histoire, au sexe signification, au sexe discours. Nous nous sommes placés nous-mêmes sous le signe du sexe, mais d'une logique du sexe plutôt que d'une physique.
Marie Jaspard, bonjour. Nathalie Bajos, on parle là, on entendait un extrait de La volonté de savoir de Michel Foucault, lu par Julien Rosa de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Et là, on voit que le sexe histoire, le sexe signification, le sexe discours, toutes ces déclinaisons, tout ce discours finalement, qui décrirait la sexualité comme étant un prolongement de tout le reste, Nathalie Bajos.
Bonjour. Oui, effectivement, la sexualité prolongement de tout le reste, dans des termes plus sociologiques, on peut dire aussi que la sphère de la sexualité n'est pas du tout indépendante des autres sphères sociales et que, quelque part, finalement, ce qu'on observe dans le champ de la sexualité reflète un certain nombre de, vous évoquiez en introduction, de rapports sociaux, oui, de rapports de domination qui existent dans la société, que l'on retrouve dans la sphère de la sexualité. Et même si cette sphère est caractérisée pour la plupart des gens par son caractère intime, pour autant, le social ne s'arrête pas à la porte de la chambre ou au pied du lit, mais façonne les pratiques, les représentations, les significations qu'on attribue à la sexualité et qui, elles-mêmes, en retour aussi, modifient aussi un certain nombre de représentations qu'on peut avoir dans les autres sphères sociales. Donc c'est effectivement un lien très étroit, très complexe, que les anthropologues ont posé dès le début du siècle dernier. La sexualité n'est pas une sphère indépendante.
Alors la question du fragment de nous-mêmes, Maryse Jaspard, qui est décrit dans ce texte, hein, le fragment nous-mêmes que seraient les rapports sexuels, les pratiques sexuelles, qui seraient donc finalement une sorte de miroir du reste, mais un mini-miroir, donc des micro-rapports en soi, une micro-société en soi.
Bonjour d'abord, bonjour. Bonjour à Nathalie. C'est dommage qu'on ne se voit pas. C'est un peu difficile là, en duplex. Une micro-société en soi, ça dépend. Enfin, je voudrais un petit peu refaire situer un tout petit peu historiquement les choses, parce que parler de la sexualité, effectivement, aujourd'hui, ça ne peut pas se faire sans parler un petit peu de la construction sociale de la sexualité telle qu'on l'aborde actuellement. Je voudrais juste rappeler quand même comment la sexualité s'est construite historiquement, par la doctrine de l'Église qui a impacté toute la société jusqu'au 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, par la condamnation de la chair et du plaisir, par la confession à la nécessité de l'aveu et par la régulation du mariage, entraînant des formes de culpabilité, mais aussi le discours sur le sexe, et c'est la théorie de Foucault. Une régulation drastique de la sexualité des humains.
Et des représentations.
Bien sûr. Et ça veut dire que ça construit la sexualité, la représentation, et ça construit un rapport social, en fait. Il y a aussi l'influence des médecins qui était très, très, très tôt, en même temps à peu près, mais la position des médecins qui pouvait être tout à fait contraire à celle de l'Église, puisque des médecins comme Galéchen ou Galien préconisaient les caresses et le plaisir sexuel. Donc on s'est toujours trouvé quand même à toutes les époques, on était toujours pris au piège entre des représentations divergentes de la sexualité, mais surtout il y a la théorie de certains historiens qui va vers un renforcement de la répression sexuelle, ce qui est quand même un peu vrai, bon, même si on peut la contester aussi, bon, il y a des grandes bagarres entre historiens sur la question, mais faut quand même rappeler qu'Ambroise Paré au XVIIe siècle, en rappelant tout simplement les préconisations de Galien ou de Gadéchen, avait eu la réprobation de toute sa société, et au XIXe siècle, on a encore en plus un retour en arrière sur la société, la sexualité. Alors là, on était à mi-chemin dans une sexualité quand même considérée comme un peu naturelle, naturaliste, entre les médecins l'Église, en fait, la morale chrétienne. Et on va avoir apparaître au 19e siècle, fin 19e siècle et début 20e, tout un nouveau courant autour de sexe, on va dire la naissance de la sexologie et de la sociologie des comportements sexuels qui va se mettre en place. Ça va se mettre en place de différentes manières. On a quand même rappelé les grands sexologues du 19e, Richard von Krafft-Ebing, Albert Moll, Magnus Hirschfeld.
Alors, il faut peut-être en passer d'abord par la psychanalyse, Nathalie Bajon. Alors, il va y avoir aussi l'analyse de la psychanalyse.
Ça en fait partie.
Il y a l'analyse de la psychanalyse et puis l'approche sociologique moderne qui va chercher finalement...
Mais on n'en est pas encore là.
On n'en est pas encore là, mais on ne peut pas non plus passer trop de temps sur cette histoire-là. Oui. En revanche, pour en arriver à l'analyse sociologique, on se rend compte, Nathalie Bajos, que
déjà,
l'analyse sociologique, elle va permettre de dénaturaliser la sexualité d'une certaine manière, de s'éloigner aussi de ces idées selon lesquelles c'est la biologie qui détermine les comportements sexuels et les rapports. Les pratiques.
Absolument, c'est le propre de la sociologie, hein, que d'analyser la manière dont les pratiques sont socialement construites, les pratiques, les représentations et les significations. Ce qu'évoquait à l'instant Maryse Jaspard, effectivement, c'est difficile de dater le début de l'histoire de la sociologie de la sexualité, parce que dans toutes les approches qu'elle a citées, il y en a un certain nombre qui visaient déjà à avoir une approche un peu objectivante de ce qui se passait dans le champ de la sexualité. Si on voulait avoir une approche un peu plus normé, si je puis dire, du début de véritables analyses de la sociologie de la sexualité. La première grande théorie sur le sujet, c'est la théorie des scripts sexuels de 1970, avec toute une série d'autres enquêtes. Mais bon, il n'y a pas que la sociologie qui discourt et qui analyse la sexualité. Les historiens l'ont fait de longue date, les anthropologues également. Si on se restreint au champ de l'analyse sociologique et des enquêtes plus contemporaines, effectivement, on peut dater ça d'un point de vue théorique, plutôt des du début des années 70, mais on peut aussi considérer que les données qui ont été fournies par Kinsey, par exemple, même s'il n'était pas du tout sociologue, étaient déjà dans une espèce de logique de vouloir justement caractériser, décrire de manière rigoureuse les pratiques sexuelles auprès d'un certain nombre de ses concitoyens.
Alors justement, la difficulté, elle va arriver assez rapidement entre la capacité à réunir des informations, faire des enquêtes et savoir quelles sont les pratiques sexuelles réelles et ces représentations qui vont nourrir des discours et des discours nécessairement un peu biaisés et difficiles à recueillir, à recontextualiser. Je vous propose d'écouter, vous avez évoqué le rapport Kinsey, justement l'homme de lettres Max-Paul Fouché, c'était dans la Tribune de Paris le 25 janvier 1949 sur la RDF.
Le rapport Kinsey a paru il y a un an et il se trouve aujourd'hui dans toutes les librairies, naturellement, de n'importe quel État, ce qui est à noter car certains États auraient pu le bannir. Mais il ne se trouve pas seulement dans les librairies, il se trouve dans les drugstores, autrement dit dans les grandes épiceries, et dans les appareils automatiques. On glisse une pièce et on peut avoir soit un digest du rapport Kinsey, soit plusieurs pièces et on a le rapport Kinsey lui-même. Et l'on voit dans les gares ou sur les aérodromes ou dans les autobus des gens lire soit le digest, soit le rapport lui-même et le discuter. Il est indiscutable, c'est un best-seller. Moi, je voudrais faire remarquer que, et ça c'est tout à l'honneur du docteur Kinsey, c'est que pour un best-seller, ce best-seller ne rapportera rien à son auteur car il fait don des bénéfices que lui rapporteraient ses droits d'auteur à son université, ce qui est très honorable.
Oui, c'est encore un universitaire naïf.
Oui.
Eh bien, il s'agit de savoir, évidemment, si ce succès est mérité.
Alors, le rapport Kinsey, qui est donc la première grande étude quantitative sur les comportements qui a été faite aux États-Unis par un professeur de zoologie, Nathalie Bajos.
Oui, effectivement, il n'était pas du tout sociologue puisqu'il était professeur d'entomologie et de zoologie. Et c'est vrai qu'il a eu une approche quantitative, une approche rigoureuse qui s'appuyait pas sur une, il s'agissait pas de se référer à un cadre théorique quelconque, mais c'était vraiment une description extrêmement fine et qui a eu, même si l'échantillon n'était pas du tout représentatif, même
c'était 12 000 personnes.
Oui, mais c'était un échantillon de volontaires dans lequel étaient largement surreprésentés, par exemple, des hommes qui étaient catalogués comme délinquants sexuels, des personnes qui avaient recours à la prostitution. Mais bon, peu importe, au-delà du caractère représentatif, le grand avantage de ce rapport Kinsey, en fait, il y en a eu deux. On a cité là dans l'entretien, on entendait 1948, c'est le rapport sur la sexualité, sur le comportement sexuel des hommes. Et il a fallu attendre 1953 pour que soit publié celui sur le rapport sur le comportement sexuel des femmes. Mais pour dire les choses rapidement, le grand mérite de cette étude, et qui a eu des répercussions très importantes par la suite, c'est qu'elle a permis de mettre au jour la diversité des pratiques sexuelles et du type de relations sexuelles, en particulier en montrant la pratique très fréquente de la masturbation, de la sodomie, l'existence de relations extra-conjugales, etc. etc.
Et, donc, c'est et venu... le décalage, finalement, le décalage entre cette morale encore très
absolument.
Forte, cette rigidité morale voilà. Nord-américaine et finalement les pratiques avouées, et les pratiques souterraines.
Et c'est pour ça que, enfin, elles n'étaient pas si souterraines que ça, puisqu'elles étaient pratiquées par un nombre conséquent des personnes qui l'avaient interrogée. Et si ces détracteurs ont mis en avant le caractère non représentatif de son échantillon, pour autant, cette mise au jour de cette diversité des pratiques et des types de sexualité a permis effectivement d'interroger, de heurter de plein front la morale qui prévalait à l'époque. Donc c'était un apport indiscutable aux études sur la sexualité.
Marie Jaspard, on voit là aussi ce qui est mis en avant. Alors là, c'est effectivement le phénomène quantitatif avait son importance, mais c'est aussi la manière dont on va distinguer ou pas les hommes et les femmes dans ce type d'enquête. Et comment est-ce que l'analyse sociologique va finalement retranscrire ces rapports-là dans le contexte des rapports sociaux ?
Pour Kinsey, le contexte des rapports sociaux était un peu inexistant. C'est pas du tout son problème était de montrer les différentes pratiques sexuelles qui étaient prohibées, mais qui étaient pratiquées par un ensemble d'hommes et de femmes, et surtout les hommes. Bon, c'est vrai que le rapport sur les femmes est paru tardivement. Il était nettement plus petit que l'autre. Donc, c'était pas encore, à mon avis, à l'ordre du jour.
Sauf que son but, c'était aussi de voir la pertinence de certaines lois. C'était de voir comment normaliser.
Bien sûr, mais
Des pratiques qui étaient justement répréhensibles parfois même par la loi.
Encore, il n'avait pas derrière la tête la notion de rapport homme-femme, rapports sociaux de sexe et d'égalité homme-femme. Ce n'était pas son problème. Par contre, je pense que les enquêtes de Master & Johnson, qui ne sont pas des enquêtes sociologiques, qui sont des enquêtes de médecins, psychologues, biologistes, et qui sont vraiment des expériences sexuelles concrètes avec des objets sur l'orgasme.
Alors, il faut les expliquer, c'est des études en laboratoire, c'est en 1966.
Études en laboratoire, c'est ça, oui. Et donc, ces études-là, finalement, avaient au contraire pour effet de mettre en avant la sexualité féminine et de montrer justement, comment on obtenait un orgasme. Alors, ça a été beaucoup contesté, ça a eu beaucoup de succès, mais ça a été beaucoup contesté. On a contesté cette notion de mettre en avant l'orgasme et donc... mais en réalité, moi, je pense que ça a une très grande importance dans la perception de la sexualité féminine, parce que ça a mis en avant les équivalences de fonctionnement des
physiologiques
masculins, physiologiques. Là, on est dans la physiologie, mais on est aussi dans un contexte où les gens sont en laboratoire, donc il y a quand même un contexte quand même social, puisqu'on est en situation particulière, et ça a donc mis en avant une forme de, surtout, enfin, à mon avis, ça a fait évoluer beaucoup de choses par rapport au rapport de sexe dans la sexualité, à l'égalisation, si vous voulez, de la représentation de la sexualité féminine et masculine.
Nathalie Bajos, justement, il faut qu'on explique un peu ces études. Hein, c'est suite à l'étude Kinsey, même si c'est plus d'une décennie après, c'est presque 15 ans après, que finalement, il y a ce travail qui est fait par Master et Johnson. Et finalement, c'est plus le système du questionnaire. C'est le système de l'expérience avec du matériel.
Oui, parce qu'effectivement, comme l'a rappelé Maryse Jaspard, l'objectif de l'enquête de Master & Johnson, c'était vraiment d'étudier la réponse sexuelle à l'excitation et donc d'arriver à décrire les différentes phases de l'orgasme. Donc,
avec des capteurs, des sondes.
Oui, mais je dirais que la méthodologie, elle découle des objectifs. Donc c'est par rapport aux questions que se posaient Master & Johnson à l'époque, c'est la méthodologie qu'ils ont mis en œuvre. Ce qui est très différent de l'enquête qui a été faite par Kinsey, qui quelque part, les enquêtes actuelles se rapprochent beaucoup plus des approches en population de Kinsey, mais et ce qui est important, encore une fois, c'est de dire que les travaux de Kinsey et de son équipe ont permis de légitimer, enfin au-delà du fait d'avoir la diversité des pratiques, ont légitimé une approche scientifique rigoureuse de la sexualité.
En se disant que peut-être en montrant par l'expérience que, y compris, le corps pouvait réagir à peu près de la même manière, à ce moment-là, peut-être qu'on interrogerait plus ces rapports-là de homme-femme.
Alors oui, parce qu'effectivement, l'étude de Master & Johnson, effectivement, a montré les enjeux de similarité et la spécificité aussi et l'existence. C'est interroger sur l'existence du simple orgasme, du plaisir féminin, indépendamment, donc dans la sexualité, indépendamment de toute finalité reproductive, ce qui était déjà pas rien de pouvoir poser. Le fait simplement d'étudier ça, c'était voilà, parmi les milliers de rapports sexuels qu'on a dans la vie en moyenne. Tout individu, finalement, les rapports qui sont à finalité procréative sont extrêmement, enfin, c'est quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une main, si je puis dire. Donc, c'était ce qui est assez évident quand on le dit comme ça, mais finalement, ce qui était aussi une façon de dire, bon, la finalité de la sexualité, c'est la recherche du plaisir.
Alors, il va y avoir des expériences qui vont être menées aussi en France avec la première enquête nationale sur les comportements sexuels qui est réalisée par Pierre Simon en 1970.
Oui, c'est la première enquête. C'est la première enquête quantitative. C'est le rapport sur le comportement sexuel qui a été publié, je crois, en 1972, et qui a été fait au lendemain de la légalisation de la contraception en 1967, et qui est effectivement la première enquête de référence sur le sujet, et qui, comme toute enquête, est très datée dans le contexte de l'époque. Il y avait beaucoup de questions sur le mariage, quelques questions sur la sexualité, beaucoup sur les relations. Il y avait pratiquement rien sur l'homosexualité, par exemple, qui n'était pas du tout étudié. Il n'en demeure pas moins que c'est extrêmement intéressant parce que ça constitue une base de référence sur un certain nombre d'indicateurs dans les années 70. Et quand on regarde les évolutions qu'on a pu observer depuis, l'évolution de la sexualité dans un pays informe aussi également beaucoup sur l'évolution du contexte social et sur la question de l'évolution des rapports sociaux entre les sexes dans une société donnée.
Maryse Jaspard, justement, sur ce rapport Simon, on voit que l'idée c'est aussi une forme d'éducation sexuelle. Hein. L'idée, c'est la prévention, la sexualité avec la contraception. Mais on voit à quel point, justement, ces études-là sont datées et culturo-dépendantes, d'une certaine manière.
Évidemment, les enquêtes, toutes les enquêtes sont datées, culturo-dépendantes, et les enquêtes quantitatives, forcément, restent limitées dans leurs objectifs, puisqu'elles cernent quand même des comportements. Or, il y a tout l'aspect quand même des représentations et des fantasmes et de la relation elle-même entre les personnes qui échappent dans ces enquêtes. Simon s'intéressait à l'acte sexuel complet. C'était extrêmement limitatif. C'était l'époque, c'était fait dans le contexte du vote des lois sur avant, c'était pour promouvoir la contraception. Libération, on était simplement en premier vote de la libération de l'autorisation de la contraception. Donc, c'était extrêmement limité. Et je suis pas tout à fait, d'accord sur les comparaisons qu'on peut faire d'une enquête à l'autre sont extrêmement limitées dans la mesure où les objectifs, les finalités, les contextes sont à chaque fois extrêmement différents.
Ah, c'est pas du tout des comparaisons, c'est plutôt les apports d'une enquête sur l'autre et comment est-ce que les choses se sont finalement peu à peu additionnées.
Oui, alors ce qu'il y a, c'est que là, on s'est focalisé. Bon, ce qu'on n'avait pas obligatoirement annoncé, on se focalise uniquement sur les grandes enquêtes quantitatives. Bon, ce qui a son intérêt, mais il y a aussi, faudrait aussi parler de l'ensemble des autres types d'approches qui sont complémentaires et qui peuvent apporter un éclairage aussi différent et complémentaire. Et qui font évoluer les choses. Il y a notamment, je pense, à des évolutions de société par rapport dans les représentations et par rapport, par exemple, à l'apport de la littérature féminine, la littérature féminine érotique, qui est un phénomène qui me semble extrêmement important par rapport à l'évolution de l'égalité homme-femme et de la sexualité masculine et féminine. Et
ça, voilà, il y a des effets comme ça. Un autre sujet d'hier.
Oui. Je pense qu'il faut quand même avoir en tête que chaque enquête a un contexte particulier, des objectifs finalisés par rapport au contexte, et que on cerne à ce moment-là des phénomènes, mais on ne cerne pas l'ensemble de l'évolution des rapports sociaux et des représentations féminines et masculines.
Ça, c'est bien évident. Et là, ce qui est mené dans cette enquête, il va y avoir les évolutions sociétales qui vont traverser l'histoire aussi. Dans les années 80, l'épidémie du sida dès la fin des années 70, début des années 80, Nathalie Bajot, ça va nourrir aussi d'autres formes d'enquête et de réflexion. Il va y avoir des études qui vont être demandées pour la première fois par les pouvoirs publics aussi dans un but de santé publique et de prévention.
Oui, absolument. La diffusion de l'épidémie de VIH à partir de la fin des années 80, enfin début des années 80 aux États-Unis, fin des années 80 en France, effectivement a conduit les pouvoirs publics à faire le constat que le sida était une maladie qui se transmettait essentiellement par voie sexuelle et qu'on n'avait pas de données sur la sexualité en France depuis les années 70, à l'exception, et c'est important de le souligner effectivement, d'autres enquêtes, je dirais, plus qualitatives qui sont tout aussi intéressantes, mais il y avait quand même très peu de recherches dans les années à la fin des années 80 sur le sujet, ce qui a conduit l'Agence nationale de recherche sur le SIDA à commander une première grande enquête sur la sexualité dans le contexte de l'infection à VIH avec un objectif de santé publique. Et c'est l'enquête qui a été faite en 1992 sur 20 000 personnes.
L'analyse des comportements sexuels en France.
L'analyse des comportements sexuels en France, c'est son titre à CSF, effectivement. Et cette enquête, c'est vrai qu'elle a été très fortement marquée par la commande, une commande d'une agence de recherche, hein, mais dans le contexte du VIH. Et donc, c'est vrai qu'elle a, on peut jamais tout traiter dans une enquête. On le rappelait tout à l'heure, toutes les enquêtes sont forcément très dépendantes du contexte social, culturel, politique, économique dans lesquels elles sont réalisées. Et donc, l'approche qui a été utilisée, c'est vrai,
fait dans cette enquête était très orienté pour nourrir des réflexions de santé publique.
Et donc sur le risque, c'était le risque qui était
orienté,
au centre.
Le risque était absolument au centre de l'approche et il s'agissait finalement de décrire très minutieusement tous les rapports sexuels avec la diversité des pratiques et pour chacune des pratiques de savoir si elle avait été ou non protégée. Et la partie sociologique, puisque c'était une équipe pluridisciplinaire, était extrêmement présente, mais le fil directeur, c'était effectivement la commande et l'objectif de l'enquête, c'était de pouvoir fournir des éléments scientifiques, de porter à la connaissance des acteurs de prévention des données scientifiques sur la sexualité qui puissent aider à guider les politiques de prévention.
Alors d'un point de vue méthodologique, on sait que le recueil n'est pas évident, le questionnement, etc. Est-ce que on a pu voir, par exemple, dans cette enquête de 1992, des évolutions, alors soit dans les pratiques, soit déjà dans les représentations des pratiques sexuelles?
Alors il y a deux choses, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on a réalisé cette enquête que j'ai co-dirigée avec Alfred Spira, c'est vrai que tout le monde nous disait, mais c'est pas possible de faire, surtout qu'on avait choisi une enquête téléphonique, tout le monde nous disait, c'est pas possible, les gens répondront pas, etc. Il y avait beaucoup de réticence et de résistance de la part, y compris de la part de chercheurs, à ce qu'on puisse faire une enquête sur ce sujet-là. Et en fait, une des principales découvertes de l'enquête, ça a été de voir à quel point on avait pu réaliser facilement cette enquête, alors avec un protocole extrêmement rigoureux, des enquêteurs formés, trois enquêtes préalables pour tester le questionnaire, etc. etc. Donc avec un taux de réponse extrêmement élevé par rapport à des enquêtes sur d'autres sujets. Donc un des premiers résultats, c'est de dire oui, on peut faire une enquête scientifique sur la sexualité, on peut la faire par téléphone et on a, avec toutes les connaissances nécessaires pour élaborer un questionnaire adapté, et on peut recueillir des données extrêmement intéressantes.
Donc, alors ça, peut-être que la nécessité, l'urgence due à l'épidémie, enfin à la pandémie, etc., a peut-être créé aussi les conditions d'interroger de manière un peu plus fluide et un peu plus ouverte.
Oui, c'est important.
Une réception
que vous dites,
de la part du public.
Absolument, parce que le public avait vraiment l'impression, et c'est d'ailleurs les remarques qui ont été faites par les enquêtrices et les enquêteurs qui ont réalisé les questionnaires, c'était de dire que les personnes, c'était vraiment, elles avaient l'impression de faire un geste citoyen en participant à une recherche qui avait pour objectif d'aider à mieux définir la prévention. Donc c'était vraiment un geste citoyen. Donc ça, c'est un peu sur les aspects méthodologiques dont il est effectivement important de parler, parce que par rapport à toute une série d'enquêtes, entre guillemets, de sondages, entre guillemets, qu'on voit fleurir en permanence et en particulier en période estivale sur le sujet, ce type d'enquête n'a rien à voir, parce qu'il y a vraiment un protocole rigoureux qui a été pensé, qui a été testé, et des analyses qui sont faites par des personnes compétentes. Quant à la deuxième partie de votre question sur finalement qu'est-ce que ça apporte ce genre d'enquête, bien sûr les enquêtes sont réalisées dans des contextes différents, mais je vous donnerai juste un seul exemple qui était vraiment intéressant, sur la question du nombre de partenaires sexuels ou sur la question des pratiques qui sont réalisées. La simple comparaison avec l'enquête ou l'âge au premier rapport sexuel, la seule comparaison avec l'enquête de 70 a fait apparaître des évolutions extrêmement importantes qui commençaient déjà à se dessiner et qui se sont prolongées dans le temps, dans le sens d'un rapprochement des déclarations des femmes et des hommes pour tout ce qui concerne différents aspects de leur vie sexuelle, l'âge au premier rapport, le nombre de partenaires, le fait d'avoir pratiqué la masturbation ou autre chose.
Et c'est aussi ça, l'influence de ce que, par exemple, une maladie comme on a vu que la syphilis au 19e siècle avait aussi, et bien avant, engendré aussi des mesures particulières et une modification de certaines pratiques. On va voir aussi que un événement finalement qui va traverser l'ensemble de la société à ce moment-là va aussi agir probablement sur les pratiques.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que ce que démontrent ces enquêtes et puis bien d'autres encore dont on n'a pas le temps de développer ici, mais ce que démontrent ces enquêtes, c'est que finalement, contrairement à ce que certains arguent en matière d'éducation à la sexualité, toutes ces enquêtes attestent du fait que ce qui va faire évoluer les comportements sexuels, ce sont des logiques sociales profondes, comme par exemple l'essor des scolarités féminines, comme par exemple l'accès à la contraception, à l'avortement, comme par exemple l'entrée massive des femmes sur le marché du travail salarié. Ça, ce sont les véritables logiques sociales qui vont avoir un impact très fort sur la manière dont se vivent et se pensent les relations sexuelles. Et que finalement, l'impact d'une épidémie comme l'épidémie d'infection à VIH a eu des effets certes très importants sur les pratiques préventives, mais pas tant en population l'éducation générale en tout cas, sur les pratiques sexuelles. Et donc, voilà, faire de l'éducation à la sexualité, c'est pas ce qui va faire que les gens vont commencer à avoir des rapports sexuels plus précoces ou avoir beaucoup, de plus en plus de partenaires. C'est une démonstration du caractère éminemment social de la sexualité. La sexualité, c'est une pratique sociale qui s'apprend, qui évolue au fil du temps, qui diffère selon les contextes et qui n'est pas la même selon les sexes pour des raisons sociales et culturelles.
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Me fais mon mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, 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 j'aime pas l'amour qui fait bim.
Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire les frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Oh Johnny.
Oh la vache. Oh j'en ai marre alors.
Vous écoutez France Culture. Entendez-vous l'écho par Maïlys Besserie.
Traiter la sexualité dans sa dimension sociologique et aborder la relation sexuelle comme je le montre dans cet ouvrage, comme collectivement nous le montrons, comme une forme élaborée de la relation sociale, c'était effectivement relativement original. Car en fait, pour moi et pour mes amis, pour nous tous, à la réflexion, nous considérions bien que ce qui se jouait dans la relation sexuelle, c'est ce qui se joue de manière plus générale dans la relation sociale, mais avec là, évidemment, une importance très grande pour la personne et pour son positionnement et dans le couple et dans la société. La société influe sur les comportements individuels, les comportements individuels se modifient dans des relations, notamment au niveau du couple, ou dans des relations entre les parents et les enfants, et c'est bien tout ce champ-là qu'il s'agissait d'aborder pour ne pas voir uniquement la sexualité, j'allais dire, dans ses aspects physiologiques et fonctionnels. Il ne faut pas confondre, il y a un chapitre qui est consacré à ça, rapports et relations sexuelles.
Alors qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient d'entendre, Maryse Jaspard? Justement, c'était le sociologue Jean Godonneau dans l'émission Carte Blanche sur France Inter le 6 juillet 1971. Alors qu'est-ce qui se joue dans la relation sexuelle, finalement, de la relation sociale? La question de la position dans le couple et de la position dans la société.
Et c'est évident que dans la relation sexuelle se joue le rapport homme-femme dans la société, la représentation féminine et la représentation masculine. C'est si la sexualité est vue du côté de la masculine, de la virilité, de l'obligation de virilité masculine liée à la pénétration, l'homme qui qui prend, la femme qui se donne, ce qui était quand même une représentation très forte, mais qui l'est encore, parce que j'ai encore lu dans des ouvrages relativement récents cette représentation vue comme une quelque chose de naturel, de sociologie. Enfin,
qui n'est plus la seule désormais. Il y a quand même eu les travaux sur le genre, les travaux.
Non,
aussi.
Non, oui, oui, mais justement, je peux vous dire que justement, je suis bien d'accord. Justement, mais on perdure encore cette représentation. Je le sais très bien, puisque un des éditeurs avec qui j'ai travaillé m'avait donné à lire un ouvrage qu'il aimait beaucoup, où justement la personne qui était une psychologue avait seulement cette représentation, ce qui m'avait un peu effarée et un peu gênée d'ailleurs par rapport à ce que j'allais pouvoir en dire moi. Donc mais cette idée de l'homme qui prend et de la femme qui se donne était liée forcément à l'image, à la position sociale des hommes et des femmes. Alors, bien que cette position ait changé, théoriquement, si vraiment c'était acquis, et si la femme était, il y a aussi la notion de femme objet, hein, qui a été beaucoup contestée, mais qui perdure énormément. On s'en rend compte tous les jours, notamment dans les représentations des jeunes femmes. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Mais si on avait réussi à casser ce rapport social, cette représentation la sexualité aurait pu en être transformée.
Alors c'est vrai que dans cette idée des représentations, c'est aussi une question de définition. Nathalie Bajos, quand on voit qu'effectivement dans les enquêtes qu'est-ce que l'on considère comme des pratiques sexuelles, par exemple homosexuelles? Est-ce que c'est le fait d'avoir eu un rapport homosexuel dans sa vie, dans l'année? Il y a toutes ces questions méthodologiques qui en disent long aussi sur une forme d'idéologie de la société qui pose ces questions-là aussi.
Oui. En fait, il y a plusieurs aspects dans ce que vous venez de dire. D'abord, c'est bien qu'on parle un peu d'homosexualité parce que c'est une forme de, c'est une sexualité comme une autre et que on parle depuis le début de l'émission beaucoup de relations entre femmes et hommes. Il y a des pratiques homo, des pratiques bi. Après, il y a la question effectivement de savoir si quand on parle de sexualité, on parle de pratique, on parle du fait de s'identifier ou on parle d'attirance. Et effectivement, quel que soit l'indicateur, alors on pourrait en prendre encore bien d'autres, hein. Mais effectivement, on voit des différences importantes. Si par exemple, on regarde le nombre de femmes qui déclarent être attirées par une personne, une autre femme, c'est beaucoup plus élevé que le nombre de femmes qui vont avoir des pratiques avec une femme, et c'est encore plus élevé que le nombre de femmes qui vont se définir comme étant lesbiennes ou homosexuelles.
Donc il y aura un écart entre l'attirance le passage à l'acte,
absolument.
Si ça a ce mot du sens. Mais...
Alors d'abord, on peut tout à fait être attiré sans avoir de pratique, mais ça traduit aussi cet écart entre l'attirance et les pratiques, traduit pour partie le poids d'une pression sociale extrêmement forte, une pression à l'hétérosexualité qui se met en place dès les plus jeunes âges.
Plus important chez les femmes que chez les hommes ?
Alors, il y a une plus grande invisibilité de l'homosexualité féminine que de l'homosexualité masculine pour tout un tas de raisons. Vous pourriez faire une émission entière consacrée à ce sujet parce que c'est extrêmement compliqué, mais je voudrais rebondir sur la question des pratiques et des représentations et de ce qu'on mesure finalement quand on travaille sur ces enquêtes où quelques personnes peuvent dire mais finalement comment vous savez que les gens disent pas n'importe quoi. Il y a un exemple que je prends souvent mais je le trouve extrêmement parlant par exemple très intéressant parce que ça montre comment quand les personnes s'expriment sur leurs pratiques finalement on capte aussi leur représentation. Quand on demande aux femmes et aux hommes le nombre de partenaires sexuels qu'ils ont eu au cours de leur vie, on voit un écart extrêmement marqué, c'est autour de 4 pour les femmes et de 12 pour les hommes. Alors sans rentrer dans de la cuisine statistique, c'est pas possible c'est pas possible qu'il y ait un tel
écart. Certaines personnes mentent dans le lot.
Non, alors justement, la première action, c'est les femmes mentent et les hommes mentent aussi en rajoutant et les femmes mentent, etc. Et en fait, les analyses plus poussées qu'on a pu faire montrent que finalement, ça traduit tout simplement le fait que la définition d'un partenaire sexuel n'est pas la même pour les femmes et pour les hommes. Ce qu'un de nos collègues disait très justement, les femmes ne comptent que les hommes qui ont compté. Et quand on regarde le nombre de partenaires, donc elle,
elles en ont eu autant que les hommes finalement, mais simplement un homme qui a un contact sexuel un peu poussé avec une femme sans que ça soit allé plus loin, aura beaucoup plus tendance à compter cette expérience comme une partenaire, alors qu'une femme, il faudra qu'il y ait eu des sentiments amoureux pour que vraiment elle comptabilise ça comme un partenaire sexuel.
Alors là, revient à ce que disait Maryse Jaspard. Maryse Jaspard, à ce que vous disiez tout à l'heure, la question de la menace de la sanction morale.
Alors, plus que la menace de la sanction morale, c'est surtout le fait que, je crois qu'une des grandes caractéristiques au cours de ces dernières décennies, c'est de voir que les pratiques sexuelles des femmes et des hommes dans les déclarations se sont beaucoup rapprochées, mais que dans le même temps, face à cette évolution, on observe toujours un clivage très important autour des représentations de la sexualité masculine et féminine, à savoir que la sexualité féminine reste encore aujourd'hui largement pensée sur le registre de l'affectivité et de la conjugalité, tandis que la sexualité masculine, elle, renvoie beaucoup plus au nécessaire assouvissement de besoins sexuels qui seraient, je mets des guillemets même si ça se voit pas à la radio, qui seraient par nature plus importants que ceux des femmes.
Alors sur la question de la nature, on a l'impression qu'on y revient toujours, hein, en réalité.
Je crois qu'on s'en est jamais vraiment complètement détaché et que la médicalisation récente, et notamment du fait de l'épidémie de sida, a encore contribué à remédicaliser les discours sur la sexualité et tous ceux aussi sur l'éducation à la sexualité. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les choses évoluent, les rapports femmes-hommes évoluent dans les sociétés, dans la société française, certes, les pratiques évoluent, ce qui est une indication importante de l'évolution des pratiques des femmes et d'une reconnaissance d'une sexualité plus diversifiée aujourd'hui qu'avant. Mais pour autant, ce contrôle social continue à construire un clivage de représentation entre la sexualité des hommes et des
Marie
femmes.
Jaspard.
Le aujourd'hui, Nathalie parle de l'enquête, la dernière enquête à CSF, qui date quand même de 2006, on est en 2018, et il y a eu depuis de grandes évolutions sociétales, et notamment il y a eu des grandes évolutions, révolutions avec la cybernétique, avec l'Internet, etc., qui créent de nouveaux modes de relations entre les hommes et les femmes. Il y a eu aussi de grandes évolutions dans les rapports hommes-femmes chez les jeunes. Et je crois que ce qu'on a pu constater, je pense que maintenant, on n'a plus vraiment d'éléments tangibles, de sociologiquement fiables. Je pense qu'il y a des enquêtes en cours qui pourront éclairer notre lanterne pour dire qu'on en est encore à ces représentations figées masculines et féminines de la sexualité. Je suis pas sûre. Hein.
Alors
c'est simplement une hypothèse, mais en lisant justement, en essayant de voir un peu dans toute la littérature. Diversifié sur la sexualité, je me pose moi beaucoup de questions justement sur ces évolutions.
Alors évolution des pratiques,
on n'a pas de données récentes.
Évolution des pratiques ou des représentations. Moi, la question que je me pose, c'est aussi celle des inégalités persistantes ou pas, puisqu'on en revient à cette question de nature. On va repartir de là. Peut-être ne seriez-vous pas d'accord. C'est l'anthropologue et sexologue Philippe Brénaud dans La Tête au Carré sur France Inter qui parlait le 5 avril 2012.
Pourquoi les femmes, c'est si compliqué que ça? Oui, le problème, c'est qu'il y a de la différence. Et pourquoi nous avons travaillé dans ces deux enquêtes sur les couples de sexe différents, c'est-à-dire qu'on appelle hétérosexuels? Ben oui, notre grande difficulté, c'est que nous sommes avec des représentations différentes. Nous sommes avec des pulsions hormonales différentes. Oui, il y a une sexualité masculine et féminine qui n'ont pas été faites pour vivre ensemble, ou du moins pour vivre ensemble longuement, dans un couple, pour une raison simple que j'ai dû déjà énoncer ici quand je parlais des hommes, c'est qu'à l'origine de l'humanité, il n'y a pas de couple. Chez les mammifères, il n'y a pas de couple. Il y a des femelles avec petits, des mâles électrons libres et des accouplements multiples qui se font à certains moments lorsque la femelle le désire. C'est l'opposé de l'humanité où certainement qu'au début de l'humanité, les mâles ont pris possession des femelles. Sûrement parce qu'il y avait trop de liberté, estimait-il. Et à partir de là, ce sont les mâles qui se présentent avec leurs désirs. Et là, chaque fois que ça se passe comme ça, effectivement, aujourd'hui, on a une situation qui est difficile à vivre pour les femelles qui se sentent souvent agressées. Oui, il faut être assez à l'écoute. On est dans une période à dominante de valeurs féminines. C'est-à-dire, oui, nous, hommes, nous avons à apprendre à être à l'écoute, à comprendre un être qui est très différent de nous, qui ne fonctionne pas de la même façon au niveau sexuel, c'est-à-dire par exemple notre excitation est immédiate, il y a un réflexe érectile masculin en quelques secondes, la même érection féminine va demander plusieurs dizaines de minutes. C'est à nous d'être à l'écoute, sinon nous sommes violents.
Nathalie Bazos, je vois froncer les sourcils et pousser des hauts cris. Expliquez-nous.
Non, je
fronce les sourcils aussi.
C'est bien.
Oui, Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet extrait d'entretien qu'on vient d'entendre.
D'abord, les données biologiques toujours mis en avant.
Alors d'abord, on n'est pas des femelles, on est des femmes,
oui,
premièrement. Et c'est important de le rappeler parce que... Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire, donc je crois que je vais essayer d'aller à l'essentiel. Le fait de ramener les différences de sexualité qu'on observe dans toutes les enquêtes et dans le monde entier entre les déclarations des femmes et des hommes, ça c'est vraiment un invariant. Et de ramener ça à des questions de pulsion hormonale, c'est une opinion. C'est une opinion, point. Ça n'est pas un fait scientifique, c'est une opinion. Sinon, il faudrait que Monsieur Breynaud nous explique pourquoi l'évolution des pratiques sexuelles au cours du temps, pourquoi les différences entre les sociétés, pourquoi l'âge au premier rapport a baissé de manière drastique en France au début des années 60 pour les femmes. Alors, et peut-être que leurs modifications hormonales ont fait que. Il faudra aussi quand il affirme que l'excitation des hommes, c'est immédiat et celle des femmes, ça met plusieurs dizaines de minutes. C'est une opinion. Voilà. Donc je crois que là, si vous voulez, on est clairement sur le registre de l'opinion par rapport à un registre scientifique. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue scientifique, c'est ce que véhicule ce type de discours sur la sexualité.
C'est-à-dire les discordances entre les deux sexes et finalement...
Non,
même
mais c'est les discordances entre les deux sexes qui sont renvoyées à la nature, aux hormones. Et c'est pas anodin, parce que de renvoyer les différences entre les sexes à la nature et aux hormones, ça veut dire une chose très simple, ça veut dire... On ne peut rien y faire puisque c'est naturel, puisque c'est hormonal, puisque c'est biologique. Et d'ailleurs, en ce sens-là, Monsieur Breynaud est parfaitement représentatif de la population dans son ensemble, puisque dans la dernière enquête qu'on a faite, la grande majorité des femmes et des hommes interrogés pensent, et ça m'a permis de rebondir sur votre question sur les inégalités, pensent que par nature, adhèrent à l'idée que par nature, les hommes auraient plus de besoins sexuels que les femmes. Et en fait, ce qui est d'un point de vue scientifique, ça n'a jamais été démontré. Le non. fait que les hommes auraient par nature plus de besoins sexuels que les femmes. C'est une construction. Et je voudrais juste terminer, parce que peut-être que Maryse le fera aussi, parce que la fin du propos sur la question de la domination des valeurs féminines dans la société française, alors on ne doit pas vivre dans la même société, ça c'est clair, il a qu'à regarder les statistiques sur les viols, il a qu'à regarder les statistiques sur les écarts de salaire, il a qu'à regarder le nombre de femmes au Parlement, le sexe du président de la République, enfin bon, je vais m'arrêter là. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse dans ce discours-là. Bon, tout le monde a le droit de tenir les opinions, d'avoir les opinions qu'il souhaite, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça traduit des représentations qu'on a sur la sexualité et de la différence entre les sexualités masculines et féminines.
Alors justement, sur les inégalités, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que effectivement on arrive exactement au même constat? Est-ce que la question des pratiques sexuelles et cette discordance entre les sexes qui est véhiculée par un discours qui est quand même un discours majoritaire, est-ce qu'elle est le reflet, le miroir exact des inégalités sociales, Maryse Jaspard?
Oui, alors moi je rebondis aussi sur le discours de Breynaud. C'était à quel il a dit ça quand il y a pas
2012,
oui, bon. C'est oui. Enfin, je veux dire, c'est un discours complètement archaïque et décalé. Bon, je crois que ça suffit de dire ça.
Sur la question des inégalités.
La question des inégalités quoi, des inégalités dans la société.
Bah, en
je crois
cas,
que Nathalie a commencé à en parler. Les inégalités, il y a eu quand même, faut quand même historiquement là, enfin dans les 50 dernières années, il y a eu un gain énorme d'égalité au plan juridique et au plan sociétal des hommes et des femmes. Bon, l'éducation, l'emploi, etc. Bon, même si des inégalités persistent, donc il y a eu vraiment un gain énorme. Alors, par rapport à la sexualité, est-ce qu'on peut parler d'égalité par rapport à la sexualité? L'égalité première dans la sexualité, c'est qu'il est toléré pour les hommes, il est même bien vu que les hommes aient beaucoup de partenaires, alors que les femmes qui ont plusieurs partenaires sont des vagabondeuses, des salopes, des tout, voilà. Donc là, il y a déjà une première inégalité, à savoir la liberté sexuelle. Et recommandé pour les hommes, ça fait partie des attributs de la virilité, et pour les femmes, c'est forcément un handicap et c'est
ça, c'est des idées qui ont peut-être un peu évolué quand même, Nathalie Bajos.
Ben, oui, alors
pas tellement.
Oui, enfin, comme le disait Maryse Jaspard tout à l'heure, effectivement, il faut attendre la nouvelle enquête qu'on est en train de démarrer. Donc, on aura des données actualisées par rapport à 2016. Mais pour autant, ce qu'on peut dire déjà, c'est deux choses importantes. C'est ce qu'on voit avec le recul qu'on a depuis les enquêtes des années 70 jusqu'à aujourd'hui, c'est que les choses évoluent lentement dans le domaine de la sexualité. Pourquoi ? Parce que la sexualité, c'est régi par des logiques sociales profondes qui évoluent au fil du temps. Donc, voilà, donc les choses évoluent longtemps. C'est vrai que c'est 2016, mais il y a quand même fort à parier que c'est quand même beaucoup d'actualité. D'autant que des enquêtes très récentes, Maryse Jaspard parlait de la révolution numérique aujourd'hui. Moi, j'ai été pas plus tard qu'hier à un jury de mémoire sur ce sujet-là, et qui montre que même dans les fanfiction slash, les représentations de la sexualité féminine, conjugale et affective sont encore extrêmement présentes. Mais pour finir sur la question des inégalités, ce qui me paraît extrêmement important à souligner, c'est le lien finalement entre ces représentations fondées sur le biologique et les inégalités sociales de genre entre les femmes et les hommes, mais pas que, les inégalités de classe, les inégalités de race aussi dont on n'a pas parlé, les inégalités d'âge, les inégalités de sexualité, construisent des rapports différents à la sexualité.
Je devrais Alors voilà, dans exemple. L'autre sens justement, mais je voudrais vous faire écouter la psychologue Héloïse Galili qui parle justement de ce rapport dans l'autre sens, des rapports de la société à la sexualité.
Souvent on compare la sexualité... j'allais dire masculine, mais c'est vrai que souvent les hommes ont cette vision-là d'une sexualité pulsionnelle, naturelle. En fait, pas du tout. Notre sexualité, elle est traversée par des normes sociales, par des codes. Et disons que cette sexualité-là, elle se vit aussi, en tout cas la sexualité qu'on vit, c'est encore dans un monde patriarcal, de domination masculine. Et donc la façon dont on vit sa sexualité, dont on l'exerce, dont on jouit aussi, elle est traversée par la domination masculine. Alors, ça peut être par exemple la valorisation qu'on trouve dans les médias ou dans la pornographie de la soumission féminine, comme beaucoup de fantasmes qui sont socialement encouragés, aussi par des livres, 50 nuances degrés par exemple, c'est la valorisation, l'encouragement des femmes à être passives dans la sexualité et à vivre une contrainte avec du plaisir, avec de l'érotisme. C'est étonnant que pour les femmes, on demande toujours, on les encourage toujours à jouir de cette façon-là, alors qu'en fait, en réalité, on se rend compte que les femmes jouissent mieux quand elles sont actives de leur sexualité, quand elles prennent les devants, quand elles savent où est-ce qu'elles veulent aller, comment le faire, etc.
Nathalie Bajos, on se demande finalement qui de la poule ou de l'œuf, puisque ce sont des influences qui sont bien réciproques entre la société et la sexualité.
Absolument. En fait, on peut résoudre le paradoxe de la poule et de l'œuf en parlant de système. C'est vraiment un système de genre et des autres rapports sociaux qui s'équilibrent. Et finalement, on peut dire que les inégalités sociales qui prévalent dans une société donnée vont moduler, construire un certain rapport à la sexualité dans les représentations. Mais ce qui est important à souligner, c'est qu'à l'inverse, le fait que ces différences femmes-hommes dans le champ de la sexualité qu'on attribue à la nature, donc sur lesquelles on peut rien faire, viennent légitimer le fait qu'elles existent dans les autres sphères sociales.
Si on pousse finalement la logique à bout, est-ce qu'on dirait pas que même la sexualité est une sorte de règlement, de mise en scène
Mais le fait de
ces rapports sociaux.
Considérer que les différences femmes-hommes dans la sexualité sont renvoyées à la nature, on peut rien y faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, vous savez quoi? Les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Donc quelque part, c'est aussi normal qu'ils gagnent pas le même salaire. C'est normal qu'il y ait moins de femmes dans des postes à responsabilité, etc., etc. Je le dis un peu simplement, mais c'est vraiment un système. C'est les inégalités qui construisent une sexualité particulière et en retour, ce qui se joue dans la sphère de la sexualité vient aussi légitimer les autres inégalités. Mais j'aurais pas terminé sur une note totalement pessimiste en disant que tout ça c'est très socialement construit et qu'on peut tendre vers une véritable égalité entre les sexes et entre les sexualités. Mais que pour ce faire, il faudrait vraiment qu'on arrive à réduire les inégalités sociales, économiques, dans toutes les différentes sphères sociales.
Et c'est l'heure des nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna Andrade.
Bonjour à tous.
Alors vous nous parlez aujourd'hui de la disparition du clitoris.
Oui, ou plutôt de sa présence par éclipse, apparaissant et se voilant dans la connaissance selon les époques et les mentalités. Ainsi, l'éducation sexuelle a connu une véritable révolution à la rentrée dernière avec la représentation dans un manuel de SVT du clitoris de manière anatomiquement correcte et non plus comme une vague protubérance minuscule aux portes de l'appareil reproducteur féminin. Il faut dire que cet appendice érectile riche de plus de 7500 terminaisons nerveuses, soit bien plus que le pénis, est resté largement à la marge des représentations et des enseignements, perçus comme un organe superflu, n'ayant pas de fonction pratique dans la mécanique reproductrice. Le clitoris, qui s'étend tout de même sur près de 11 cm, souffre donc d'une invisibilité qui ne doit rien au hasard de la chair. C'est ce que la philosophe Nancy Tuana appelle, et c'est passionnant, l'épistémologie de l'ignorance, soit l'étude des stratégies d'oubli programmées à des fins de pouvoir. On retrouve ainsi, dès le milieu du XVIe siècle, des représentations complètes et détaillées du clitoris. La Renaissance triomphante ouvre les portes de l'organe du plaisir féminin après la relative ignorance lors des périodes antiques et du Moyen Âge.
Son usage est même encouragé par l'Église.
Exactement, comme l'indique le sexologue Jean-Claude Picard, il faut attendre la fin du 19e siècle pour que l'Église catholique tourne casaque et interdise le recours à ce monticule du plaisir. Il faut dire que jusqu'alors, la théorie des humeurs prétendait qu'une semence était délivrée par le clitoris stimulé et que sa rencontre avec le jaillissement mâle donnait lieu à la formation de l'embryon. La découverte des ovules et du cycle menstruel vient balayer cette conception en 1880 et l'Église décide alors de bannir une pratique qui détourne les couples de leur sainte tâche procréative. Excite donc toute forme de pratique récréative. À ces attaques répétées des catholiques conservateurs qui aboutissent dans les années 80 à la disparition pure et simple de toute mention dans les manuels scolaires, s'ajoute, selon l'historienne Virginie Giraud, une explication d'ordre anthropologique. Dans une société patriarcale fondée sur la filiation, la crainte centrale pour l'homme est de n'être pas assuré de sa propre paternité. On va donc dans certaines civilisations jusqu'à l'excision pour abolir le plaisir et garantir que les femmes n'iront pas voir ailleurs.
Une situation qui ne s'améliore pas avec l'intervention de Freud.
Non, comme bien souvent, le professeur Freud intervient et délivre un discours définitif sur l'organe féminin. Deus ex machina de la psyché humaine, Freud assène en 1896 sa fameuse théorie de la maturation sexuelle chez la femme. Selon le maître viennois, l'orgasme clitoridien ne concernerait que les petites filles qui, en grandissant, verraient le siège de leur plaisir migrer vers le vagin. Si elle continue de stimuler son clitoris, la jeune fille restera bloquée indéfiniment au stade de l'enfance. Avec cette attaque en règle, Freud fait jaillir le mythe d'un orgasme purement vaginal qui restera très longtemps ancré dans la pensée collective. Comme pour de nombreux autres sujets, la doxa freudienne continue encore d'irriguer nos conceptions de l'orgasme sexuel féminin avec toutes les perceptions qui en découlent. Car le clitoris est aussi le siège d'une bataille éminemment symbolique et politique. Nier la spécificité, voire même l'existence de cette excroissance du plaisir, c'est en réalité remettre en cause l'indépendance physique et sexuelle de la femme, c'est réfuter une fonction autre que procréative à son organe sexuel. Et pour tordre définitivement le cou à ces élucubrations freudiennes, on pourra rappeler, comme le fait Maya Mazoret, qu'il n'y a pas plus d'orgasmes exclusivement clitoridiens qu'il y en a de purement vaginaux. Et ce, pour la simple et bonne raison que les pieds du clitoris enserrent le vagin. Il s'agit donc de rétablir un peu de complexité et d'admettre qu'en réalité, plus il y a de zones érogènes sollicitées, mieux c'est.
Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoul et je bégais. Et c'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Mais je pourrais rester tout le temps avec vous. Tellement je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couille de mythe, d'un air sournois en pensant « Oui, ma petite, tu peux toujours causer, mais je t'aurai. » Je vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez ? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui s'est baisée par n'importe qui s'est baisée n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui n'est pas une pute. D'accord. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, c'est une pute. Il n'y a pas de pute. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pute? Il y a des cons, il y a des sexes. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas triste, hein? C'est super gay. Et je me fais baiser par n'importe qui. Accordez autant d'importance aux histoires de cul. Le sexe. Tu me baisses bien, hein, comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Quand les gens peuvent se pleurer, comme ils peuvent croire, il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi.
Vous aurez reconnu des extraits mixés du film La maman et la putain, Diabolo Gomme. Merci Maryse Jaspard et Nathalie Bajos d'être venues parmi nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs. Maryse Jaspard, Sociologie de la sexualité aux éditions La Découverte, et Nathalie Bajos, Enquête sur la sexualité en France, également aux éditions La Découverte. Vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur le site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Demain, nous finirons notre semaine et notre saison avant l'été en parlant de la libération sexuelle comme cheval de Troie du capitalisme.
C'est une masse chronique, le bêlage chronique. Et pourtant, le bêlage, j'en ai rien à foutre.